Apparemment, toucher du bois est une vieille superstition qui vient des Perses puis des Égyptiens. Pour les premiers, c'était religieux. Pour les seconds, c'est parce qu'ils pensaient que le bois diffusait une forme de magnétisme bénéfique. Au Moyen Âge, les chrétiens disaient que l'habitude de toucher du bois venait de ce que le Christ avait été sacrifié sur une croix de bois. Aujourd'hui, les débats font rage. Est-ce que toucher du plywood compte pour toucher du bois? Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on prend un mot et, un petit peu comme un tronc d'arbre, on le scie en deux, on regarde toutes les vénures qu'il y a à l'intérieur, on en choisit deux, trois et on vous les met en exergue. Cette semaine, le mot c'est « bois ».
Un bois, c'est un espace de terrain couvert d'arbres, comme une forêt, par exemple. Une forêt dans laquelle on pourrait trouver, par exemple encore, des orignaux qui ont sur la tête des bois. Et le bois, bien évidemment, c'est la matière ligneuse et compacte des arbres. Si un arbre est un animal, le bois, ça serait la viande. Mais tous les arbres n'ont pas la même sorte de bois. Si l'ébène est un arbre au bois très dur, le chêne liège, lui, est plutôt mou, ce qui est parfait pour faire des bouchons de bouteilles de vin. Ben parfait, disons presque parfait, parce que entre 7 et 8% des bouteilles de vin fermées au liège finissent par bouchonner. Le bouchonnement, c'est un phénomène qui est causé par une molécule qu'on trouve dans le liège, soit le 2,4-6-trichloroanisol, ou TCA. Ces dernières années, on a vu apparaître des alternatives aux bouchons de liège, que ce soit le bouchon qui se dévisse ou le bouchon de caoutchouc. C'est une situation qui fait probablement pas l'affaire du groupe portugais Amorim, le géant du bouchon de liège. Oui, ça existe, un géant du bouchon de liège. L'an dernier, le groupe Amorim a vendu 3,3 milliards de bouchons, ce qui représente une bouteille de vin sur 6 sur la planète. Le chiffre d'affaires de la compagnie, 380 millions de dollars. Les petits bouchons, c'est de grosses affaires.
Je voudrais que tu m'écrives. Je voudrais que tu me lises. Je veux que tu me relises. Pour être sûr que tu me comprennes. Je veux que tu me fredonnes. Je veux bien que tu me marmonnes. Je veux que tu m'apprennes. Je veux que tu m'oublies. Et qu'ensuite je te revienne. Ça ne me dit rien d'être un poète. J'aimerais mieux être un poème. Et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Je veux que tu me griffonnes. Je veux que tu me chiffonnes. Je veux bien que tu me jettes et que tu me recommences. Je veux que tu essaies de te souvenir de moi en attendant de trouver du papier. Je veux que tu m'apprennes. Je veux que tu m'oublies et qu'ensuite je te revienne. Ça ne me dit rien d'être un poète. J'aimerais mieux être un poème. Et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Ça ne me dit rien d'être un poète. J'aimerais mieux être un poème. Et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Je veux que tu m'inventes. Je veux que tu me réinventes. Je veux que tu me gardes dans un joli cahier. me cherches, je veux que tu me trouves. À l'heure de soigner la tristesse, je veux que tu me prennes, je veux que tu me lances. Clouer le bec à la fatalité, ça ne me dit rien d'être un poète. J'aimerais mieux être un poème. Et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes. Ça ne me dit rien d'être un poète. J'aimerais mieux être un poème. Et je veux que tu m'aimes comme tu aimes les poèmes.
Les coureurs des bois, ils étaient là pour l'aventure et pour faire des profits avec la fourrure.
Ah, le coureur des bois! Cet homme mi-sauvage, mi-civilisé, fort et aventurier, avec un beau chapeau de castor et plein de choses en babiche. Entrepreneur et voyageur. Bon, je suis au courant aussi du scorbut et des autres petits inconvénients, là. Je suis donc allée voir Christiane Campagna, collaboratrice de Dans le champ lexical, qui est aussi guide au lieu historique national du commerce de la fourrure à la Chine depuis 16 ans, pour, je l'avoue, confirmer mon mythe impossible.
En fait, d'abord, c'est qu'il y a plusieurs définitions au terme « coureur des bois ». Celles qui vont être utilisées par les historiens ne sont pas nécessairement celles qui vont être utilisées par le grand public. Pour les historiens, ça représente une période assez précise, les débuts du régime français surtout, une activité à l'époque de la Nouvelle-France, considéré comme illégal. On aurait préféré que les jeunes hommes restent à développer la terre. Mais bon, ils s'ennuyaient un peu. Il manquait gravement de femmes. Il n'y en avait pas assez. Et il y avait des possibilités d'aventure et d'argent à faire en allant faire le commerce de la fourrure. Donc, c'est un terme négatif au départ de les appeler « coureurs des bois ». Dans le grand public, c'est un terme général qui englobe tous les hommes qui ont participé au commerce de la fourrure. Donc, ça engloberait aussi peut-être des aventuriers pionniers du début, comme Étienne Brûlé ou Radisson, qui sont à la fois explorateurs, interprètes, certains qui vont, plus que d'autres, adopter le mode de vie amérindien. On mélange aussi souvent « coureurs des bois » avec « voyageurs ». Le voyageur, c'est plus un salarié, un engagé. Il y a une petite différence entre, au début, à l'époque de la Nouvelle-France, c'est un coureur des bois qui a son permis. Et progressivement, ça va devenir un salarié qui travaille pour un marchand équipeur, de plus en plus des grandes compagnies.
Les coureurs des bois de tous les temps n'ont pas justement toujours eu une femme amérindienne, ne se sont pas rapprochés des Amérindiens?
Oui, la différence, dans le dernier cas, c'est que comme ils vivent vraiment là-bas, souvent ils vont être avec la même, ils vont avoir vraiment une compagne avec laquelle ils vont rester. Alors qu'en général, les amours entre les coureurs des bois ou les voyageurs, c'était plutôt temporaire. Souvent, ils revenaient, là, mais c'était rarement à l'année, disons. Là. On appelait ça à l'époque un mariage à la façon du pays, ce qui veut dire que ça empêchait aucunement un Européen, après ça, d'aller se marier pour vrai, entre guillemets, avec une bonne Française ou une bonne Britannique.
Qu'est-ce qui se passait pour les femmes ici?
Bien, en général, la coutume voulait que les... surtout ceux qui avaient de l'argent, parce que c'est pas seulement le coureur des bois salarié, disons, qui va fréquenter les femmes amérindiennes, ça va être aussi le grand bourgeois du commerce de la fourrure. La coutume, c'est de pas les laisser dans le besoin. C'est de, quand on part, de laisser des possessions, laisser de l'argent, surtout parce que généralement, on a eu des enfants. Ceux qui le feront pas vont être très, très, très mal vus.
Et là, tu viens de dire « grand bourgeois », etc. Moi, je m'imagine quand même le coureur des bois, puisqu'il vit dans le bois, qu'il fabrique des patentes. Je veux dire, je l'imagine un peu rustre. Non? C'est plutôt diplomatie?
Ça dépend. Il était connu pour être assez visible quand il revenait, ouais. Souvent, c'est des gens qui buvaient solide, qui avaient un costume un peu hybride parfois, un peu européen, un peu amérindien, mais c'était aussi vrai des Amérindiens à l'époque qui avaient très vite adopté les tissus québécois. Oui, c'était reconnu comme étant, quand ils arrivaient, on le savait, là. C'était très bruyant, puis souvent, bien, on disait qu'ils avaient un petit peu perdu leur manière pendant qu'ils étaient partis.
Wow! Un grand bourgeois aventurier sur le party. Je suis vraiment née dans mauvaise époque.
Have tobacco.
Daniel Boone was a man.
Voici venu le temps du Vox Pop. Cette semaine, j'ai demandé aux gens ce qu'ils feraient s'ils se perdaient dans le bois et de quoi auraient-ils le plus peur.
C'est une bonne question, honnêtement. Je suppose que le téléphone ne marche pas.
Je vais regarder mon cellulaire en premier, savoir si je capte les ondes, puis je vais essayer de rejoindre mes amis pour savoir si... pour savoir s'ils peuvent m'aider, ouais.
J'ai aucune idée. J'essaie de me repérer par rapport au soleil.
Ben, comme Robin des Bois, là, on se débrouille. On va chasser, puis on essaie de trouver notre chemin. Là.
Comment? Je pense que je vais prendre mon iPhone, puis un survival kit dedans.
Je pars un feu, je fais comme Mensa Gretel, là. Je sème des affaires pour pouvoir marcher trois fois sur le même chemin, puis j'allais me trouver la sortie. Là.
Trouver des points de repère.
Oh, ben, j'utiliserai un compas.
Oh my God, je suis vraiment pas équipée à ce niveau-là pour savoir.
Non, mais ça, c'est un arbre qui a une forme spéciale, une roche qui me dit quelque chose.
Aucune idée, hein? Je sais pas, je serais toi à la sortie?
Oui!
J'essaie de repérer, de m'orienter avec la lune, si c'est la nuit ou le soleil, si c'est le jour, pour savoir où est-ce que je suis.
Ben, je vais y aller, je pense, avec mon instinct de survie, là. Je vais essayer de trouver la civilisation la plus proche.
Ben, probablement que j'essaierais d'apprendre le langage des animaux, tranquillement, tu sais, commencer par les petites bêtes, comme les écureuils.
C'est ça, des mots nouveaux.
Ma plus grande peur, ça serait d'avoir rien à manger, je pense.
Me faire manger par un ours.
Pour retrouver mon chemin.
Ah, j'ai pas peur dans le bois, j'ai grandi dans le bois.
Un Daniel Boone.
Ça peut être ça.
De mourir de froid. Oui.
De passer la nuit là.
Ouais.
Ouais. C'est ça qui me ferait peur, je pense. C'est que je saurais pas ce qui peut arriver. Je pense que c'est ça. Ouais.
J'essaie de me sauver.
Le seul bois que je connais, il n'y en a pas trop d'animaux méchants, parce que je suis français. Tout dépend là, c'est où? Peut-être me faire manger par un ours ou un loup.
Oh my God, tomber sur un ours? J'aimerais pas ça. Ben, je sais qu'il faut rester immobile, puis faut pas faire des gestes que brusques. Faut pas lui donner d'eau, voilà.
Faut pas donner d'eau à l'ours?
Je pense que non, non.
T'aurais donné ta bouteille d'eau, t'as perdu dans le bois à l'ours?
Non, mais faut pas lui donner d'eau dans le sens.
On va bûcher du bois, gueuler avec les louettes.
Si on était vraiment méchant, on pourrait vous faire écouter plusieurs vers d'oreilles notoires dans lesquels il est question du bois et des arbres. On n'a qu'à penser à Isabelle Boulay qui se transforme en saule inconsolable, le plus désemparé des arbres, comme vous savez, ou bien la version cajun de la chanson folklorique « L'arbre est dans ses feuilles, Marilon Marilé » chantée par Zachary Richard. Mais comme on est gentil et qu'on vous aime bien, on vous a fait une sélection musicale un peu plus relevée que ça. En 1957, le français Georges Brassens joue pour la première et la dernière fois dans un film qui s'intitule « Porte des lilas ». Il y chante la chanson « Au bois de mon cœur » dans laquelle il nomme un paquet de forêts où il y a des petites fleurs comme le bois de Vincennes, le bois de Clamart, le bois de Meudon et le bois de Saint-Cloud. Mais au final, c'est dans le bois de son cœur qu'il retrouve tous ses copains et au fond, ben c'est ça qui compte le plus dans la vie.
Au bois de la mare, y a des petites fleurs, y a des petites fleurs, y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
On parle de bois scandinave et plus précisément de bois norvégien dans la chanson Norwegian Wood du groupe Les Beatles. Sauf que ça semble pas mal accessoire vu qu'il est surtout question d'une fille qui montre sa chambre au chanteur, qui l'invite à s'asseoir sur le tapis avec un verre de vin, puis bon, qui annonce que c'est le temps de se coucher finalement. Deux Québécois abordent aussi le sujet du bois dans leur composition. Dans Sortir du bois, Vincent Vallière a encore un bout à faire et il boirait ben une bière, surtout quand les temps sont gris, et qu'il sort sa guite pour se consoler un peu. Mais au final, il nous assure qu'il va sortir du bois puis qu'on n'aura jamais vu ça.
Je m'en vais sortir du bois. T'auras jamais vu ça. Je crois très fort en moi. La 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 la.
Il y a aussi une chanson où il est question d'un gars qui descend dans un village, qui sentait le bois, sentait le sapin. Il demande alors au Pic-Bois de pas le laisser revenir en ville, puis... quoi? Vous êtes déjà tanné? Bon, ben ok, d'abord, on va plutôt vous présenter ici la chanson « Le gars de la compagnie » du groupe québécois Les Cowboys Fringants, qu'on trouve sur leur album « Motel Capri » sorti en 2000. Au dire même des membres du groupe, « Le gars de la compagnie », c'est la première chanson engagée des Cowboys Fringants. Elle dénonce l'exploitation industrielle de la forêt boréale québécoise, un des plus importants poumons de l'Amérique du Nord. Dans la chanson, il est question des Américains qui ont flairé la bonne affaire et qui sont venus faire la pièce dans le bout de Trois-Rivières en y construisant des usines. Le problème, c'est qu'ils coupent comme des défoncés et qu'ils n'écoutent pas les revendications des Amérindiens du secteur qui, pourtant, chassent de père en fils depuis des centaines d'années. Alors au final, c'est malheureusement le gars de la compagnie qui rit dans sa barbe. Et puis, comme le dénonce le chanteur du groupe, on se demande bien c'est qui le con qui a déjà dit que l'argent ne poussait pas dans les arbres.
Québec. Partaient à l'automne, passaient l'hiver dans des camps, revenaient voir leurs femmes quand arrivait le printemps. Les Américains, flairant la bonne affaire, sont venus faire la pièce dans le bout de Trois-Rivières. Ça va nous faire la job pour les Canadiens français. Bâtissez vos usines, puis nous on vous donne la forêt. La demande est trop grande pour ce que la forêt peut donner. Mais c'est pas bien grave, ils ont des chums au gouvernement qui sont remontés au nord, continuer les coupes à blanc. Les Amérindiens, ceux qui chassent de père en fils, ont voulu leur parler, se sont fait dire rentrez chez vous. C'est pas avec vous autres qu'on va faire des bénéfices. Pour nous, un caribou, c'est bien plus beau sur un 30 sous.
Dans sa barre, c'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas les arbres? Et le gars de la compagnie, lui dans sa barbe. C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas les arbres?
C'est une des plus grosses usines de cuivre au monde. La compagnie a empoisonné tous les lacs, toutes les rivières alentour. C'est une compagnie spécialisée en extraction de richesses naturelles, surtout des mines et des forêts. Ces genres de compagnies-là, leur façon de voir les choses exclut pas la destruction de la biosphère. Quand j'ai appris à un moment donné, c'est eux autres qui bûchaient en arrière du Vaudrey, je suis venu nerveux un petit peu.
Il faut voir que le ministère de l'Environnement, même s'il porte le nom d'environnement, le ministère est encadré par une législation qui restreint la portée du sens environnement. Et donc, même si la forêt, c'est de l'environnement, pour le ministère de l'Environnement, à cause des lois qu'il gère, il ne gère pas la forêt. Il a des responsabilités par rapport à la protection du milieu aquatique dans le milieu forestier. Il a des responsabilités par rapport à la construction des routes en milieu forestier. Il a des responsabilités par rapport à l'établissement des camps. Mais par rapport à la forêt, il n'a pas de responsabilité.
Le ministère de l'Environnement n'a pas un mot à dire sur la gestion de la forêt.
Non, pas un mot à dire.
C'était un extrait du documentaire « L'erreur boréale » de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999.
Outside.
Je vais vous conter une histoire de bûcheron. Non, pas un bûcheron canadien avec la pitoune et tout. Non, l'histoire d'un bûcheron et d'une bûcheronne. L'histoire du petit pousset, tel que relaté par Charles Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs 7 enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il était fort petit. Et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit pousset. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours le tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. »« Ah !» s'écria la bûcheronne. « Pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ?» Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ça lui ferait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit pousset ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu de dedans son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. On partit. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse où à 10 pas de distance on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants ramassaient des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement. Et puis, s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit Poucet les laissa crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin le petit caillou blanc qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, « Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent. Il le mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tout contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 10 écus qu'il leur devait et y avait longtemps, et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'il n'avait mangé, elle acheta 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants? Ils se feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût pas encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était tout en pleurs. « Hélas! Où sont mes enfants, mes pauvres enfants? » Elle le dit une fois si haut que les enfants, qui étaient à la porte, l'ayant entendue, se mirent à crier tous ensemble. « Nous voilà! Nous voilà! » Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant, « Que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là et vous avez bien faim. » Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontèrent la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie qui dura tant que les 10 écus durèrent. C'est un extrait d'Histoire ou Conte du temps passé par Charles Perrault, une édition de 1742 des textes, enfin du texte d'origine que Charles Perrault a recensé et mis en forme.
Vous écoutez dans le champ lexical, cette semaine, on parle de bois. Ce qui adonne bien parce que je suis présentement en train de regarder Joannie scier du bois dans son atelier. J'imagine que d'habitude, elle s'installe mieux parce que là, son bout de bois a l'air super stable. Puis je...
Un pilon, qu'il ait 2000 ans ou qu'il soit fabriqué au 21e siècle, reste et restera toujours une jambe de bois, dit le docteur Samir Camille, qui s'est penché sur l'historique de la prothèse, donc de la jambe de bois. L'histoire des prothèses remonte à bien loin dans le temps. Les premiers hommes, dès qu'ils ont adopté la position debout, ont naturellement cherché à conserver la posture. Et, comme il arrivait un peu plus souvent qu'aujourd'hui de se faire amputer une jambe par un mammouth, par exemple, il leur fallut donc trouver des béquilles et des aides pour remplacer leurs membres estropiés ou manquants. Les plus vieilles prothèses retrouvées datent de l'Égypte antique. Les Égyptiens étaient capables d'amputer et de fabriquer des prothèses selon des chercheurs allemands qui en ont découvert des preuves particulièrement nettes sur la momie d'une femme morte il y a environ 3000 ans. Son gros orteil du pied droit avait été amputé et l'articulation a été remplacée par une prothèse en bois. Durant les civilisations grecques et romaines, les traces se font alors plus précises et plus nombreuses. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, même Aristophane, poète grec, écrit dans « Les oiseaux » un rôle pour un invalide avec une jambe de bois. Ensuite, vers le Moyen Âge, c'est seulement les riches qui pouvaient s'offrir des appareillages un peu plus sophistiqués et humanisants. Lourdes, encombrantes et peu fonctionnelles, les prothèses faisaient souvent partie de l'armure de certains chevaliers. Puis, à la Renaissance, on commence à mieux comprendre, bien sûr, le corps humain et l'amputation. On est plus curieux, on est plus habile, donc les prothèses sont mieux adaptées et la majorité d'entre elles viennent avec une armature métallique et un pied ou autre bout de membre en bois également. Les guerres et les tragédies ont évidemment eu le mérite de permettre un grand développement du côté de la jambe de bois. Pendant la guerre de Sécession, 1861-1865, il y a eu 600 000 morts. Le monde a vu naître des dizaines, voire des centaines d'entreprises spécialisées qui appareillaient les vétérans parce qu'il y a eu environ 30 000 amputés. Ensuite, avec les deux guerres mondiales, on voit un nouvel essor dans l'industrie des prothèses. Des industries américaines et des grandes entreprises sous contrat avec le gouvernement mènent des recherches fructueuses. Vers 1950, on crée un pied en mousse de néoprène. C'est la fin de la jambe de bois. Aujourd'hui, quand on y fait référence, c'est surtout pour parler de Pirates, Forrest Gump ou Lucien Bouchard.
Bonjour, Sonny Duval vous chante cette semaine les bois. Allons-nous promener dans les bois. Allons-nous promener en pied de bas. Bois, 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 bois. Il faudra se coller car on risque d'avoir froid. Il ne fait pas chaud au fond des bois. Bois, 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 bois. Se geler le bout des doigts. La prochaine fois, il faudra amener du bois, 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 le chauffage.
As-tu vu notre beau sapin?
Népinière.
Tu vois bien qu'il y a des aiguilles tout autour de la branche.
Puis?
Ben, c'est une épinette.
Pourquoi on l'appelle un sapin de Noël d'abord?
On y apporte un sapin.
Ben, un sapin, c'est une épinette.
On vient d'entendre un extrait de Bac et bottine, un film de André Melançon, adapté au cinéma en 1986, qui était à la base un livre de l'écrivaine québécoise Bernadette Renaud. Y jouait notamment la désormais blonde Maë Paiement. La chasse perd sa place, on le sait. Et on sait aussi qu'au Québec, qui va à la chasse va dans le bois. Et on sait finalement que, dans le bois, à la chasse, père et fils vivent souvent de beaux moments ensemble. Comme dans cette nouvelle de notre collaboratrice Lisanne Rault-Leblanc. Ben, en fait, ben pas du tout comme dans cette nouvelle. Bref, arbre généalogique.
Qu'avez-vous entendu? Deux coups de feu. Non, en fait, trois. Mais les deux premiers étaient très rapprochés. Bang, bang. Puis il y a eu une petite pause. Bang! Le policier a une haleine acide, à la limite du supportable. J'ai rien réussi à avaler encore et ça pèse beaucoup dans la balance. Cette puanteur de bouche augmente exponentiellement, comme les rayons du soleil qui pénètrent maintenant les stores fermés de la pièce contiguë. Comment vous expliquez ça? Vous croyez vraiment qu'il a tiré sur les deux autres pour ensuite se suicider? J'attends une ou deux secondes bien senties avant de répondre. Le temps que la boule dans ma gorge revienne exactement où je l'aime, là où elle m'empêche de parler normalement. Je retire ma casquette au même moment, et j'espère que j'en fais pas trop. Oui, c'est ça que je crois. Il dit rien, et me regarde avec une sympathie bien mal jouée. Sauf qu'il n'arrive pas à me fixer dans les yeux, ce qu'il voit en dessous de mon visage le rend bien trop mal à l'aise. Ma chemise est couverte de sang, ma veste sans manches verte enfilée par-dessus aussi. On m'a proposé des vêtements de rechange, mais je peux pas. Je m'accroche à ce dernier vestige comme un enfant à sa peluche préférée. J'ai chaud là-dedans. Je transpire, mais je me sens en sécurité. Où étiez-vous lorsque la tragédie s'est produite? J'étais à 15 mètres, j'avais pris un lièvre en chasse, je pouvais voir sa petite queue détalée à travers les herbes. J'ai mis mon arme en joue pour la viser, puis j'ai entendu les coups de feu derrière moi. 15 mètres, hein? Je réponds pas. J'imagine qu'il se fait une image mentale de la distance. S'il est comme moi, il peut tout de suite visualiser les pieds. Mais les mètres, c'est une distance floue, presque insaisissable. Je fais exprès pour utiliser cette mesure. Ça me fait paraître plus précis et peut-être même plus détaché. Il me regarde, le front plissé, deux minces fentes à la place des yeux, un mélange de fatigue et de doute. Et si vous étiez à cette distance-là, pourquoi vous êtes taché de sang? J'inspire longuement. C'est la troisième fois qu'il me pose la question depuis je sais pas combien de temps. Si un arbre tombe dans une forêt où il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? C'était la question favorite de mon père. Particulièrement après la dépression de maman, quand nous devions faire de la route ensemble vers l'hôpital. Il avait l'air de croire que cette stupide réflexion philosophique relancerait notre conversation moribonde, parvenue à son extrême limite depuis des lustres, depuis qu'il nous avait abandonnés. « Je pense que tu devrais mettre la musique moins fort si tu veux qu'on parle. »« Père, m'écoutes-tu? » Il était là sans y être. Toujours joueur, moqueur. Avec lui, maintenant, j'étais condamné à incarner l'homme sérieux. Confiné au même rôle que ma mère, celui de la désagréable bouée du réel. Il avait mis des années entre nous et je ne saurais jamais pourquoi. Pendant son absence, j'avais vieilli et lui redevenait enfant. Pitoyable. Des années perdues à espérer pour me retrouver devant l'inéluctable. Je n'étais rien ni personne pour lui. « Pa, m'entends-tu? Pa! » Le visage blême de mon père, ses yeux gris-verts, incontrôlables, lancés dans toutes les directions comme un animal traqué me reviennent en mémoire. Je transpire, je vois flou. « Monsieur? » »« Oui, pardon, je commence à être un peu fatigué. » Il n'est pas dupe. Les policiers sont jamais dupes. « On est tous fatigués, là, ok? Alors, pourquoi il y a autant de sang sur votre chemise? » Il le dit avec dédain, toujours en évitant soigneusement de regarder mes vêtements. J'attends un peu. Il faut laisser l'ascenseur arriver, comme dans le film Shining. Ding! Les portes s'ouvrent, le sang se met à couler partout. À peu près comme ce qui m'est arrivé, mais le son, c'était bang! Bang, bang! Et un dernier bang! Quand j'ai fait marche arrière, après les coups de feu, je les ai trouvés... Évidemment, la scène est indescriptible. Peut-être est-ce le genre de choses qu'on ne peut jamais oublier. Il faudrait savoir s'il est possible, après un certain temps, de revoir l'endroit dans sa tête et de ne se rappeler que du ciel gris d'automne entre les branches. Repenser à cette journée et ne se remémorer que la longue route avant de s'enfoncer dans le bois. Le chalet en bois rond, tout près de la rivière. La pluie incessante, douce, le long du visage. Ils étaient tous par terre, dans des morts de sang. J'essayais de prendre mon père dans mes bras, de le secouer. Le policier dit rien. Même le bruit du ventilateur semble s'être arrêté. Il prend pas de note non plus, parce que tranquillement, il y a une alarme qui monte en lui. Il sait. Il sait depuis la première fois que j'ai raconté l'histoire, quand le soleil baignait la pièce grise d'une lueur orange sale. Si un arbre tombe dans une forêt où il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? Papa m'avait posé cette question, comme si elle le hantait depuis longtemps. Comme si elle était tout ce qui importait à ce moment-là, et peut-être à jamais. « Allez, essaye, dis quelque chose! » J'hésitais. « Pourquoi l'arbre tombe? On l'a coupé? » « Peu importe, est-ce que le bruit existe parce qu'on est là pour l'entendre, ou s'il existe par lui-même? Un bruit est-il la réception du son dans notre oreille, ou l'émission du son en soi? » À 8 ans, cette question n'arrivait pas à traverser mon mur de Lego ni mon habit d'Indien un peu usé. mais une image effrayante m'apparaissait en tête, celle de mon père, grand et droit, s'effondrant dans une forêt immense et sombre, sans réussir à émettre un son. La panique m'a envahi soudainement et j'ai gardé un silence songeur. Papa me regardait déjà plus. « Tu veux jouer avec moi? Je prends mon camion, toi tu prends l'hélicoptère. » Il n'a pas répondu. Puis il a fini par partir. Je ne l'ai plus revu avant que quelque chose le ramène, bien des années plus tard. Peut-être le message télépathique d'un naufrage laissé derrière lui. J'ai voulu lui faire un massage cardiaque, mais ça donnait rien, il perdait vraiment beaucoup de sang. Machinalement, le policier consulte des notes, sans doute le rapport des ambulanciers. Puis il soupire en se frottant les yeux. « C'est tout? Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est tout? » Le massage cardiaque a rien donné, il s'est pas manqué, la balle était près du cœur. Il me regarde sans broncher pendant qu'une petite bouffée pestilentielle en provenance de sa bouche m'atteint de plein fouet. L'impatience, la hâte de coincer le gibier se lit sur son visage. Et les autres? Je détourne les yeux. Les autres? Pour qu'on n'entende aucun bruit dans la forêt, il faut qu'il y ait personne. C'est le prix à payer. Si un arbre tombe dans une forêt où il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? Cette fois-ci, j'ai rien répondu. Peut-être que mon père m'a regardé quelques secondes, en attente, puis il s'est détourné, comme d'habitude. Il a allumé une cigarette et ouvert la fenêtre, laissant entrer une brise froide. C'est moi qui conduisais et j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. Sa présence m'irritait, j'aurais pas dû embarquer seul avec lui. J'aurais pas dû venir du tout même. Je savais pas exactement ce que représentait cette fin de semaine pour lui, pourquoi il m'avait invité. J'avais cru naïvement que les choses se passeraient bien, qu'il serait l'adulte que j'espérais depuis 30 ans. Mais comme d'habitude, il n'avait demandé aucune nouvelle de ma mère. Il avait fumé et bu un peu avant de partir, même s'il était 5 heures du matin. Je lui avais posé quelques questions qu'il avait habilement évitées. Et pour couronner le tout, ces deux crétins de copains, Paul et Pierre-Marc, nous accompagnaient. Mes mains se sont crispées sur le volant. Il n'était pas encore midi et pourtant il faisait gris, presque noir quand nous nous sommes engouffrés dans le chemin étroit. Les arbres formaient des mains géantes, vertes foncées au-dessus de nos têtes. Dans la voiture, un étrange silence d'église régnait. Quand nous avons finalement atteint le chalet, la pluie s'est mise à s'abattre violemment sur le pare-brise, comme si des gouttes de verre venaient s'y fracasser. Mon père s'est précipité dehors pour rejoindre ses copains. Les rires fusaient, il faisait des clowns dans l'averse, sans trop se préoccuper d'être déjà trempé. « J'espère que les chevreuils ont sorti leurs bottes d'eau, » a dit Pierre-Marc ou Paul. « Puis leurs masques de plongée, » a renchéri Pierre-Marc ou Paul. Suivi d'un grand éclat de rire à trois têtes. Puis chacun a pris son fusil sans même me regarder, sans même me saluer. Comme d'habitude, mon père m'a laissé derrière. Il marchait à leur côté d'un pas léger. Je l'ai suivi en courant avant de lui toucher l'épaule. Je croyais qu'on pourrait parler un peu. Père n'a pas répondu. Il se sentait plutôt agacé par le rapprochement. Maman me disait justement l'autre jour que tu lui avais rapporté une perdrix une fois, puis épargne-moi les réflexions de ta mère à moitié folle. On est ici entre hommes pour s'amuser. Je me suis tu, renfrogné. C'est-tu chassé au moins? L'absence d'armes dans mes mains me brûlait soudainement. Je redevenais ce petit garçon qui n'avait jamais connu l'extase de partir dans les bois avec son père, de flairer les pistes, de déboucher une première bière illégale et de jouer à devenir vieux. Si je savais chasser, ça serait pas grâce à toi. Tais-toi, je t'ai pas traîné ici pour que tu me fasses honte devant mes amis. Ben alors pourquoi? Pourquoi tu m'as traîné ici, hein? Malgré moi, j'avais hurlé cette dernière phrase et je me retrouvais au bord des larmes. Sans répondre, il a accéléré le pas jusqu'à rejoindre ses deux idiots favoris, la bière à la main. Ils effrayaient sûrement le gibier à 100 mètres à ronde avec leur bouquin. Je me suis arrêté. La forêt m'écrasait, j'étais transi par la pluie, humide jusqu'à l'intérieur de mes organes. Maintenant, il fallait faire demi-tour. La boue entrait dans mes souliers, l'eau me rongeait les épaules et la tête. Pourtant, sans m'en rendre compte, je me suis rendu jusque dans la voiture. Mais au chaud, une colère que je ne connaissais pas encore est née quelque part dans mon ventre. Une colère qui portait peut-être un habit d'Indien un peu usé. Ou alors qui avait le visage ravagé de ma mère ou même une colère grise tapie dans une vieille auto sous un siège, dans le silence dur de l'habitacle. Je suis sorti de la voiture puis j'ai repris le chemin vers les entrailles de la forêt, dégoulinant, le bruit de mes pas couvert par le ploc-ploc incessant. Et j'ai fini par les apercevoir. Ils étaient déjà arrêtés, probablement à moitié ivres. J'ai enduré encore le déluge, attendu qu'ils s'éloignent un peu, que leurs yeux flous d'alcoolo ne voient même pas agripper l'arme de mon père appuyée sur un arbre. Pas si compliqué que ça, chasser. J'ai d'abord visé Pierre-Marc ou Paul, et la détonation est morte, étouffée dans la moiteur de la forêt humide. Même chose pour Paul, ou Pierre-Marc, dont le corps a heurté la terre mouillée sans même alerter un oiseau. Je crois que mon père voulait pas mourir seul. Il a donc forcé ses amis à partir avec lui. Je vois pas d'autre explication qu'un geste désespéré. Les yeux sombres du policier, maintenant cerclés de rouge, me traversent comme un rayon X. Il espérait mieux. Moi aussi, mais je sens plus rien. J'ai seulement chaud. Très chaud sous ma chemise et ma veste éclaboussée. Monsieur, je vous crois pas pantoute. Vous êtes notre seul suspect pour cette tragédie et vous êtes maintenant en état d'arrestation. Voilà. C'est le moment. De toute façon, j'arrive plus à penser sans entendre le bruit presque assourdissant d'un arbre immense, pourri, qui s'écrase dans l'écho solitaire de la forêt. Peut-être que mon père m'a enfin vu pendant cette fraction de seconde avant que j'appuie sur la détente. Et même lorsqu'après le dernier bang, son regard perdu dans son visage si blanc a cherché en vain une issue dans le mien. L'averse avait cessé. Son grand corps solide, large, s'est mis à vaciller avant de s'effondrer dans un fracas plus fort que les deux autres. Le bruit ressemblait à un craquement, comme une branche qui casse enfin. Puis, quand le noir s'est abattu sur ses yeux gris-verts, je suis redevenu personne.
C'était Arbre généalogique, une nouvelle de Lisanne Rault-Leblanc, publiée dans le numéro 43 de la revue littéraire québécoise Zinc.
Agonne sur la tente, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remède, mon maigre butin, une mince pile de vin. Et suivez-vous avec mon drapeau blanc. Je fixe mon tiroir caisse. Je fus dans la mire, j'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite, vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi, un bon coup de semence, pis la balle est dans mon camp. Sur le chemin du retour, j'ai pris un long détour, me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie, j'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon cou. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand temps que je rentre dans le tas.
En 2011, lorsque vient le moment de s'acheter un meuble, disons, à tout hasard, un bureau, on va se retrouver avec une description du meuble qui irait comme suit. Description de l'article tirée du site internet d'un magasin de meubles. Ma foi, l'enseigne est bleue et jaune, ça me rappelle vaguement quelque chose. Donc, description de l'article. Plateau de table, autre partie, panneau de fibre de bois, peinture acrylique. Côté, tablette, panneau de particules, plastique ABS, peinture acrylique. Plateau inférieur, panneau de particules, feuille de mélamine, feuille décor. Ouais, un peu de bois, de la peinture et des trucs dont on n'a pas vraiment idée ce que ça peut être. Ah, mais au 18e siècle, un meuble, c'était tout autre chose. Et un meuble, c'était fait en bois, pas en panneau de particules. Ah, si j'avais été Madame de Pompadour, mon bureau aurait eu l'air de ceci. À Crécy, Madame de Pompadour possédait un bureau plaqué en bois de rose et en bois d'amarante, avec deux pupitres et six tiroirs, les pieds, chute et quart de rond de bronze d'or moulu. À Bellevue, elle écrivait sur un petit bureau de chêne plaqué de bois de rose et de bois satiné, garni de maroquins, toujours orné de bronze doré, et, au château de Saint-Hubert, sur une table à écrire en bois de rose et fleurs de bois de violette, ayant par devant une tablette à coulisses couverte de maroquins noirs, à droite un tiroir à clé garni d'encrier, poudrier et boîte à éponge. C'est cette délicieuse petite table que l'on voit reproduite dans le grand portrait que Boucher nous a laissé de la belle marquise. Après la description de ces trois petits meubles charmants, il importe peu, semble-t-il, de savoir que Madame de Beaumont ait possédé un petit bureau de bois de rose à mosaïque, Mademoiselle Duclos un bureau de palissandre, et que Madame de la Reynière ait eu un bureau de travail de quatre pieds en poirier noirci. C'était tout à fait autre chose. Cette jolie description de bureau de dame de lettres est tirée du Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration depuis le 12e siècle jusqu'à nos jours, écrit par Henri Havard et publié en 1894.
C'est tout pour nous cette semaine. Quittons les bois pour nous rendre à l'orée de la prochaine émission qui tournera autour du mot « alcool ».
Dans le champ lexical est une émission de Joanie Larue et Mathieu Charlebois. Nos collaborateurs cette semaine, Annie Rossano au Vox Pop, Pierre Duchesneau à la chanson thématique, Chloé Barry au texte historique, Sonny Duval à la chanson originale et Dominique Charon à la recherche. Dans le champ lexical est sur le web au danslechamplexical.com, sur Twitter au @danslechampl et Perdu dans le bois. Fait frette, on entend un loup. S'il vous plaît, envoyez des secours.